Bonjour à tous. Dans la suite toujours de ma pensée, que tes vérités deviennent des réalités, ça ne change pas, le fil rouge pour moi est toujours le même. Et pardonnez-moi si des fois je me répète, je voyais que les choses n'avançaient pas. Les vérités, on les connaît, hein, il suffit de lire la parole de Dieu. On a des vérités que Dieu nous a données en tant que promesses pour nos vies, pour certains. Et puis, il y a le fait que, on est impatient et je disais, Seigneur, ça tarde à venir les réalités de ce que tu nous donnes. Et j'ai eu une réponse en disant simplement, si tu me laisses gérer ces vérités, tu les verras se voir se réaliser. Sauf que si c'est moi qui les gère, elles ne verront jamais le jour. Donc, il a fallu plier les genoux et dire, Seigneur, pardonne-moi. Et prends à nouveau la gestion de toutes ces choses. Et en fait, ce gestionnaire, c'est le Saint-Esprit que je crois, enfin, pour ma part, ces derniers temps, a été un peu trop mis de côté. On a appuyé sur le Père et sur le Fils, et on a oublié qu'il y a le Saint-Esprit, et que c'est le Saint-Esprit qui manifeste par sa puissance la parole de Dieu qui nous a été laissée par notre Seigneur. Donc, Seigneur, je te bénis pour ces moments. Je te bénis, éternel Dieu, pour cette parole. Seigneur, qu'elle puisse toucher les cœurs, qu'elle puisse répondre aux besoins, que certains, Seigneur, puissent entendre ce que tu veux leur dire, qu'il y ait, Seigneur, une prise de conscience, même si un seul mot dans tout ce qui sera dit sera celui qui percutera le cœur, alors merci. Mais Seigneur, je prie qu'on ne ressort pas comme on est venu et que il y a toujours ce regard tourné vers toi et cette espérance fondée sur ta grâce et ta miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alors, comme d'habitude, je vous donne le titre. Ce message, il va être apporté aujourd'hui sous forme d'exhortation et le 6 mai, le samedi 6 mai, sous forme d'acte, d'impact, de prière, pour que ce que je vais apporter aujourd'hui soit réellement impacté dans nos vies. Donc, il est en deux parties, exhortation et mise en pratique dans 15 jours, 3 semaines. Et le titre, c'est « Une porte à la gloire de mon Dieu ». Bien sûr que je parle du corps de Christ. Et « Je suis une porte éternelle pour la gloire de mon Seigneur ». Ça, c'est une vérité. On va la voir, c'est une vérité que Dieu nous dit. Et moi, dans mon cœur, comme je vous l'ai dit, eh bien, je demande au Saint-Esprit qu'elle devienne une réalité, et non seulement une réalité dans le cœur, mais qu'il y ait l'expression de cette réalité. Parce que tous, Christ, nous avons tous ce Christ en nous. Mais je désire toujours, et je demande au Seigneur que l'expression du Christ en nous soit manifestée, soit vue par différentes situations, attitudes, comportements, témoignages. Et là, j'ai dit, Seigneur, comment peut-on arriver à une telle déclaration que je suis une porte éternelle pour la gloire de mon Seigneur? C'est ça. Et donc, on va prendre psaume 24, 3, 6. Et j'ai cherché dans plusieurs traductions. Et en fait, Louis II, c'est la seule qui n'est pas juste. Excusez-moi. Celle qu'on a l'habitude de voir n'est pas juste. Alors j'ai été voir chez les Juifs, Darby, les Cathos ou autres, ils donnent tous la même version, sauf celle que l'on a l'habitude. Louis II, le Sommeur, tout ça, ça a un peu dérapé. Donc, vous verrez ce qu'il dit exactement. Donc, psaume 24, 3 à 6, il est dit qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel? Donc là, c'est la version Darby. Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité ou au mensonge et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Toutes sortes de révélations, se reçoit et se comprend dans le lieu très saint. Parce qu'en fait, lorsqu'on se retrouve devant la face de Dieu, lorsqu'on s'humilie devant Dieu, lorsqu'on répond au rendez-vous de Dieu, le lieu où Dieu nous donne rendez-vous, c'est toujours un lieu propice à l'écoute, à la sérénité, à la paix. En gros, si on vient dans la présence de Dieu avec nos tracas, nos soucis, il y a un problème. Et j'ai entendu dire un jour, et je crois que c'est vrai, Dieu n'a rien à faire de nos problèmes. En gros, je vais même vous choquer, Dieu ne s'occupe pas de nos problèmes. Il s'occupe de nos cœurs. Il s'occupe de nous. Et en s'occupant de nous, il nous retire de ses préoccupations. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, lorsque l'on rentre dans cet esprit de prière, d'adoration, nos fardeaux ne peuvent pas entrer avec nous dans le lieu très saint. Ça leur est interdit. Si on prend conscience de ça, et si on est vraiment convaincu qu'en nous, le Saint-Esprit veut nous parler, veut nous régénérer, nous restaurer, et qu'on rentre dans le lieu très saint, là où le sang de l'agneau nous a donné l'accès, eh bien, nos soucis, nos fardeaux ne peuvent pas nous accompagner. À un moment donné, il va falloir que... Et trop souvent, eh bien, on essaye de rentrer, mais avec notre sac à dos, et le Seigneur dit, il va falloir que lui dépose quelque chose. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il nous faut rentrer nu, dépouillé dans sa présence, afin qu'il nous revêt de ce vêtement de louange, de ce vêtement d'adoration et de ce vêtement en lin qui représente les œuvres. Donc, il y a déjà une compréhension qu'il faut avoir. C'est pour ça que ceux qui vont à la montagne de Dieu doivent avoir des mains innocentes. Alors, vous savez tout ce que ça veut dire, l'innocence. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au mal, on ne vient pas avec des jugements, on ne vient pas avec des critiques, on ne vient pas en murmurant. De toute façon, ça, Dieu, il ne l'entend pas. Si on vient dans sa présence et qu'on commence à murmurer sur les uns et les autres, et qu'on commence à justifier son état en disant « Oui, mais moi, si je ne suis pas bien, regarde celui d'à côté, il n'est pas mieux que moi. » Ça, déjà, Dieu, il est sourd à ça. Ça, ce n'est pas la peine. Donc, ça doit rester extérieur. Par contre, si on vient avec un esprit d'humilité, là, Dieu aime ça. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc, on rentre avec des mains innocentes et un cœur pur. Un cœur pur, c'est comme un enfant. Et on en a parlé souvent ces derniers temps, ce cœur pur, il a transformé ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça le cœur pur, c'est-à-dire avoir une pleine confiance, un plein amour en Dieu, pas en nous. Malheureusement, encore, je peux vous choquer, je n'ai pas confiance en vous, mais j'ai confiance au Dieu qui est en vous. Et j'espère que c'est pareil pour vous. N'ayez pas confiance en moi. Je vais vous trahir, vous décevoir. Je vais vous abandonner. Je vais même peut-être vous insulter. Mais vous prierez pour moi, parce que le Dieu qui est en moi, lui, ne veut pas que j'agisse de la manière. Donc ce cœur pur, c'est un cœur selon Dieu, comme l'était David. Et quand on est dans cette attitude, et que notre âme ne rentre pas dans le mensonge ou dans le compromis, dans la tolérance, et que notre âme comprend que la volonté de notre Seigneur, c'est qu'elle soit sauvée, qu'elle soit soumise à notre esprit, alors on voit notre vie changer, on voit la conception de Christ changer. Et c'est d'un repos. Tu disais, Alain, que Noé veut dire repos. Mais avoir un repos dans l'âme, c'est pur bonheur, ça. Le repos dans l'âme. C'est-à-dire, vous êtes au milieu du plus grand, des typhons, d'ouragans, vous êtes au milieu dans le cœur, et ça ne bouge pas. Tout autour de vous s'écroule. Tout est malheur, tout est tristesse, et on est au milieu. Et on a même honte d'être heureux. Parce qu'à côté, c'est le désarroi, c'est le désespoir, c'est la folie. Et on se dit, mais quelque part, Seigneur, pourquoi moi je suis heureux ? C'est ça l'espérance de la gloire de Christ. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il ne peut rien avoir à quelqu'un qui est mort. Il ne peut rien arriver à quelqu'un qui est mort en Christ et qui est ressuscité en Christ. Il ne peut rien arriver. Mais si notre âme n'a pas compris ça, le repos, on ne le connaît pas, il y a des turbulences et des choses qui ne sont pas claires. Donc, Voilà, quand on a cette attitude-là, telle est la génération de ceux qui le cherchent, qui cherchent Dieu, de ceux qui recherchent ta face au Jacob. Et, comme je vous l'ai dit, toutes sortes de révélations se reçoivent et se comprennent. Se reçoivent et se comprennent dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et pour y demeurer et recevoir la bénédiction de la justice, il y a des attitudes à respecter. On a des témoignages à respecter, on a un comportement à respecter. Ce n'est pas la chair qui domine en nous. Elle doit être constamment crucifiée. Nous devons être des modèles. Comme Paul était, il disait, je suis un modèle pour vous. Il n'était pas orgueilleux, mais en fait, il parlait du Christ en lui. Il osait dire avec vérité qu'il était un modèle. Aujourd'hui, si on dit ça, on va dire, mais tu te prends pour qui ? Non, il y avait une humilité en lui qui disait que, pourvu que vous voyiez le Christ qui est en moi, ne me regardez pas, moi, Paul, oubliez-moi, mais retenez celui qui vit en moi. Et c'est ça l'expression de la vie en Christ. Nous sommes la génération de Jacob qui cherche la face de Dieu. Nous sommes une génération intemporelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge. Elle a existé, elle existera pour l'éternité. Où l'âge ne rentre pas en compte. C'est ça qui est merveilleux dans cette génération, c'est qu'il n'y a pas d'âge. D'ailleurs, comment un homme aujourd'hui de 80 ans pourrait-il rentrer dans son appel ? Aujourd'hui, si quelqu'un venait et se convertissait à 80 ans, et que Dieu lui dit « rentre dans ton appel maintenant », est-ce que dans la conception de l'Église d'aujourd'hui, on lui laisserait la place ? Je ne suis pas sûr. En toute honnêteté, je ne suis pas sûr. Et c'est mauvais ce que je dis, hein. Mais je ne sais pas si quelqu'un de 80 ans viendrait et prendrait son ministère en main et qu'on lui laisserait toute la place. On pourrait en discuter. Et pourtant, c'était le cas de Moïse, hein, entre autres. Maintenant, pourquoi cette porte ne s'ouvre pas selon la dimension de Dieu? Et c'est là, c'est un mot qui est important. Il y a nos visions à nous, nos calculs, notre mathématique à nous, notre conception de ce que c'est que de vivre en Christ, et il y a ce qu'on appelle les dimensions de Dieu. Ils sont incalculables, on ne peut pas les mesurer, vous pouvez prendre tous les mètres et les lasers que vous voulez, c'est impossible. Les dimensions de Dieu, elles sont tellement grandes, tellement glorieuses, que d'ailleurs, dans sa main, il tient l'univers. Alors, imaginez un peu, l'univers est déjà sans fin, donc imaginez les dimensions de Dieu. Ça encore, il va falloir qu'on prenne et qu'on se projette par le Saint-Esprit, qu'on se projette dans quelque chose qui est nouveau, lié à la parole de Dieu, de comprendre que nous avons une fâcheuse habitude, et j'ai une fâcheuse habitude, c'est de limiter Dieu. C'est-à-dire que ce que je lui demande, je le conçois de là à là. Alors que Dieu dit, mais pourquoi tu me limites ? Pourquoi tu me limites ? Je ne suis pas le Dieu de l'addition, mais je suis le Dieu de la multiplication. Cette multiplication va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Maintenant, pourquoi ? Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas dans la dimension de Dieu ? Et c'est là où, mon ami, c'est peut-être long, mais on connaît ce passage. Encore une fois, lecture selon Darby ou dans les autres écrits, dans les autres traductions, vous verrez que quand on va prendre Ézéchiel 37, 1 à 14, même si c'est long, on va prendre le temps de la lire parce qu'il y a des mots qui changent. Leur positionnement et leurs révélations sont différentes. Darby. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu de la plaine. Elle était remplie d'ossements. Ce passage, on le connaît par cœur. C'est une vision que qu'Alain avait reçue à l'époque pour l'Église. C'était la pensée de l'Église. Et il dit, il me fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux sur la surface de la plaine, et voici, ils étaient très secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os revivront-ils ? Et je dis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces os, dis-leur, os secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur Éternel à ces os, je vais faire venir en vous le souffle. Traduction habituelle, c'est l'esprit. Mais là, c'est tout à fait différent et beaucoup plus puissant, beaucoup plus percutant. C'est une autre dimension de la réalité de ce que le Saint-Esprit veut faire. Il dit, je vais faire venir en vous le souffle et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs et je ferai venir sur vous de la chair et je vous recouvrirai de peau et je mettrai en vous le souffle et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisais selon qu'il m'avait été commandé et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici, il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent, un os de son os. Et je vis et voici, il vint sur eux des nerfs de la chair, de la peau, les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prophétise au souffle, prophétise au souffle, parle en mon nom au souffle. Quand on prophétise, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Laisse-moi, en gros, dit Dieu, laisse-moi m'exprimer, laisse-moi parler au souffle. Dieu dit, laisse-moi parler au Saint-Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis au souffle, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisais selon qu'il m'avait commandé, et le souffle entra en eux. Et ils vécurent, et ils se tinrent sur leurs pieds, une immense armée. Et il me dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, et notre attente, notre espoir, nos promesses ont péri. Nous sommes retranchés. C'est pourquoi, prophétise, dis-leur, ainsi le Seigneur, dit le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai monter hors de vos sépulcres, mon peuple, et je vous amènerai dans la terre d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres. Mon peuple, et je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous placerai sur votre terre, et vous saurez que c'est moi l'Éternel qui ai parlé, et qui ai fait, et qui l'ai fait, dit l'Éternel. Là, il y a une intention qui a été retenue, donc en fait, la plupart du temps on parle de l'esprit, là on parle de souffle, donc il y a une action. On comprend mieux quand ça souffle, on comprend mieux parce qu'on sait que le Saint-Esprit est relié au vent, au souffle. Et vous allez voir quelle position il a dans ce passage Ézéchiel. Voilà ce que le Seigneur me dit, me révèle quand je lisais ça. Il dit, l'Église est épuisée, essoufflée et asphyxiée. L'Église, épuisée, essoufflée, asphyxiée. Et donc, le cœur nouveau que l'on a reçu n'est pas alimenté en oxygène. Parce qu'il nous manque ce souffle nouveau. L'ennemi, pendant 2 ans, écoutez-moi bien, s'est acharné à détruire le système respiratoire. C'est pas vrai? Cette maladie, cette pandémie, m'a fait tilt, elle s'est acharnée sur le système respiratoire. Pour ceux qui ne croient pas, c'est une maladie comme une autre, un virus comme un autre. Mais quand on demande à Dieu, et qu'on prend du recul, et qu'on dit, Seigneur, mais pourquoi ce virus s'acharnait sur le système respiratoire? Il y a une part de vérité que j'ai compris. Une part. L'ennemi, pendant 2 ans, s'est acharné à détruire le système respiratoire, ce souffle qui alimente le sang. Et si le cœur ne fonctionne pas normalement, tout le corps est en défaillance. Vous savez qu'il faut que le sang soit régénéré par l'oxygène. Si le sang n'est pas régénéré, à un moment donné, tout le corps va être en défaillance. C'est pour ça qu'il y a des fatigues. Quand le système, les poumons ne fonctionnent mal, le sang n'est pas régénéré, le cœur, lui, n'est pas alimenté correctement, le cerveau n'est pas régénéré, toutes les intelligences renouvelées, tout. Vous allez voir que toute la conception du corps est liée en partie au bon fonctionnement des poumons. Au bon fonctionnement des poumons. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'on faisait à ceux qui étaient vraiment atteints de ce problème ? Du coronavirus dans les poumons, on les mettait en coma artificiel. Coma artificiel. Et l'ennemi a voulu mettre l'Église en coma artificiel. Tout simplement. Et quand on est dans un coma artificiel, on n'est plus gestionnaire de la vie. On n'entend plus rien, on ne sait plus rien, on dépend des bons soins des autres. Vous comprenez jusqu'où l'ennemi est allé? Parce que il y a le plan de Dieu derrière quand même, il y a la solution. Donc, le système respiratoire représente le prophétique dans la parole de Dieu. Le système respiratoire représente le prophétique. Et ce dernier a perdu à nouveau sa force et sa crédibilité au sein de l'Église. Entendez-moi, pendant des années, il y a eu un renouveau du prophétique, il y a eu une forme d'enseignement de base, mais ça n'a jamais pris racine. Ça n'a jamais eu l'impact que ça devait avoir. Je vous le dirai d'ailleurs pourquoi. Et vous savez que la semaine dernière, j'étais donc au Sénégal, j'avais préparé les messages que Dieu m'avait mis sur mon cœur, et à un moment donné, la veille, il me dit, demain, tu changes le message. Je veux que tu poses quelques fondements, parce qu'en fait, le titre, c'était « Si les fondements sont ébranlés, que fera le juste ?» C'était le thème. Et en fait, le Seigneur me dit, on ne peut pas ébranler quelque chose qui n'a jamais existé. Dans leur église, c'était le prophétique. Il dit, pose quelques jalons du prophétique. J'ai obéi, et effectivement, beaucoup de personnes qui vivaient certaines choses dans le prophétique, mais qui n'avaient aucun regard, aucune explication, aucun enseignement, étaient perdues. Et quand à la fin, j'aurais dit, ben, je suis disponible pour ceux qui veulent discuter, ben, tous avaient une question parce qu'ils étaient démunis. Et quand je leur ai dit que la première chose que l'ennemi a détruite et a commencé à détruire, c'était les prophètes, hein, d'Abel jusqu'à Zacharie, et ce ministère prophétique, il ne veut pas en entendre parler, le diable. Il ne veut pas en entendre parler. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Peut-être un jour, je vous le redirai. Mais il a horreur de ça parce que c'est le seul moyen, c'est par le seul moyen que Dieu révèle toutes ses stratégies. Donc vous imaginez un peu que quand l'ennemi fait une stratégie contre l'Église et qu'elle est révélée prophétiquement, tout tombe à l'eau pour lui. Et c'est une claque qu'il prend. Or, il a mis un mutisme au sein de l'Église, au niveau du prophétique, et le meilleur moyen pour l'éteindre, c'est de le mettre dans le coma. C'est ça. Quand il y a un problème dans le fonctionnement respiratoire, le prophétique est mort. Et quand le prophétique est mort, je vous garantis que le reste mort derrière. D'ailleurs, je vous pose une simple question. Quand la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit est tombé. Hormis le fait que Pierre justifie qu'il n'était pas ivre parce que c'était 9h du matin, quelle était la première parole que le Saint-Esprit inspire à Pierre? Est-ce qu'il lui dit, vas-y Pierre, annonce au peuple qu'il faut faire de tous des disciples? Est-ce qu'il dit, annonce à tous ceux qui t'entendent qu'il faut rentrer dans le ministère, avoir les dons, évangéliser? Quelle a été la première parole suggérée par le Saint-Esprit à Pierre? Et elle fait exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Vous savez, la première parole, c'est « Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, ils prophétiseront. » Voilà la première parole que le Saint-Esprit donne à travers Pierre. C'est pas le but du hasard. C'est pas parce qu'il avait rien à dire. Parce qu'il sait très bien que ce souffle nouveau, quand le Saint-Esprit est venu, il vient, le Saint-Esprit, pour révéler pleinement la parole de Christ. Mais quand elle vient d'un homme, elle a l'impact d'un homme. Mais quand elle sort directement de la bouche de Dieu, elle a un autre impact. Je vous garantis, ça change tout. Ça change tout. Quand vous suggérez, quand vous ressentez, quand vous pensez, c'est le canal, vous qui dites, je pense que Dieu veut faire ça. Mais quand Dieu dit, moi l'Éternel, je désire que vous fassiez ça, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Parce que quand on commence à dire, je pense, je ressens, C'est un filtre. On retient et on arrête. On bloque la puissance de la parole prophétique. Donc, Ézéchiel, quand il commence à parler, il parle de ce souffle nouveau que l'Église aujourd'hui doit retrouver parce que nous sommes en asphyxie, on est étouffé, épuisé. Et il est vrai, moi je peux en parler, mon épouse étant là, avant d'avoir eu la position des quatre stents, je prenais une petite pioche pour planter un petit pot comme ça dans la terre que même une enfant de 4 ans pouvait faire facilement. Moi, le premier coup de pioche, j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Je faisais 3 coups de pioche et je faisais un malaise vagal. Donc, j'étais là. J'ai dit, mais mes poumons, ils marchent bien. J'ai été voir un pneumologue. Il m'a dit, mais vos poumons sont fantastiques. Mais alors, c'est quoi le problème? En fait, il y avait quelque chose de spirituel, clair. En fait, ma défaillance, c'était 2 aortes et 2 artères et 2 veines qui étaient pincées. Mais il n'y avait plus de circulation, il n'y avait plus de vie. Et donc, je savais pourquoi. Il y avait cette oppression spirituelle. Je le savais. Donc aujourd'hui, le souffle, il est là pour révéler des situations. D'ailleurs, même quand ils prophétisent, ces os se reconstruisent, ils ont des nerfs et tout, mais ça ne suffit pas. Et on a parlé, Alain, Antoine et moi-même, on a parlé d'un esprit nouveau et d'un cœur de pierre changé en cœur de chair, mais ça ne suffit pas. Il manque la vie. D'ailleurs, quand Adam a été créé, tout le corps a été créé, mais il a fallu que le souffle, on souffle la vie. Et aujourd'hui, je suis persuadé que l'Église doit retrouver un second souffle, c'est-à-dire tout à nouveau reconnaître que le Saint-Esprit doit gérer et être le gestionnaire de notre vie, pour que nous ayons des mains pures et un cœur pur. Ça, on ne peut pas y échapper. D'ailleurs, au moment où Dieu dit à Ézéchiel, prophétise au souffle et dis au souffle, intervient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que l'on observe. On parle d'un peuple qui existe, le peuple d'Israël. Mais c'est nous. On se retrouve dans la parole. Écoutez-moi bien, on se retrouve. Vous vous souvenez, il y a un mois de ça, quand j'ai eu la vision du labyrinthe. Beaucoup ont dit, je suis sorti du labyrinthe. C'est vrai ou pas? Mais vous êtes toujours liés. Il y en a encore qui sont liés et attachés dans leurs pensées. Là, il est dit quelque chose d'assez fort. Il dit, fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Nous sommes la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés et notre attente a péri. Nous sommes retranchés. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai monter hors de vos sépulcres et mon peuple que je vous amènerai de la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'aurai ouvert vos sépulcres et que je vous aurai fait sortir et que je vous aurai fait monter hors de vos sépulcres. Là, il y a quelque chose que Dieu insiste, c'est nos sépulcres. Il ne dit pas des sépulcres ou des tombes. Ils disent de vos tombes, vos propres tombes. L'Église doit retrouver un souffle nouveau, retrouver une intimité avec le Saint-Esprit pour que la vie de l'Esprit se manifeste avec puissance au travers de nous. S'il n'y a pas de souffle en nous, alors il n'y aura pas de vie. Nos poumons sont encrassés par toutes sortes d'allergies. J'ai reçu ce mot. En priant, j'ai reçu ce mot. Nos poumons sont encrassés par toutes sortes d'allergies que nous, écoutez-moi bien, que nous refusons de combattre. Et qui nous épuise, nous fatigue, nous tue. Voilà ce que je recevais de la part du Saint-Esprit. Ces allergies que nous refusons de combattre. C'est bizarre, d'habitude, notre corps lui-même réagit et se bat contre des choses extérieures. Mais là, c'est comme s'il y avait une fatalité, un abandon, une fatigue telle, un tel épuisement, voilà, un tel épuisement, une telle asphyxie, qu'on n'a plus envie de se battre. Je sais qu'au milieu de nous, il y en a beaucoup qui n'ont plus envie de se battre. C'était des promesses. C'était des promesses. Voire dès lors ou des utopies. Mais je ne vois plus rien dans ma vie. Rien ne change de ce qui se fait. Et on n'a plus envie de se battre. Ces allergies se trouvent dans les sépulcres et les tombeaux que nous nous sommes construits. Ces allergies se trouvent dans les tombeaux que nous nous sommes construits, croyant être à l'abri de ce monde. Croyant être à l'abri de ce monde. Et là, c'est une particularité de l'Église, corps de Christ. C'est que, avant de connaître Christ, on vivait. Alors on vivait sans espérance, mais on vivait. On partageait. On avait des relations. Et c'était beaucoup plus facile. Je ne comprends pas d'ailleurs. Il y avait beaucoup plus de contacts. Et on se convertit. C'est comme si, comme l'ennemi dit, tu m'as échappé, tu appartiens à Dieu. Maintenant, je vais te dire, il est préférable pour toi que tu restes planqué avec tes frères et sœurs en Christ, là. Restez bien où vous êtes planqué. Ne venez pas faire un tour dans mon domaine, dans mon royaume, parce que vous allez recevoir des coups. Et alors, on devient religieux et on dit, ben non, je ne fréquenterai plus les non-croyants parce qu'ils vont me souiller. Ah, c'est un mensonge. D'accord ? Je ne les fréquenterai plus. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même pensée que moi. Ils sont odieux, insultants. Et on fait des pas. Et on s'éloigne. Et on se construit notre propre maison pour se protéger de l'esprit du monde. On se construit nos propres tombes. Et il y en a même un qui te donne un coup de main en disant, moi, tu veux de la pierre ? Tu veux du marbre ? J'en ai. Prends. Et on se construit ces tombes. D'ailleurs, une fois, j'avais eu une vision, il y a un an, si vous vous souvenez de ça, je voyais beaucoup de tombes fissurées où on voyait la lumière dedans. Vous savez que dans les tombes, il y a même la lumière. EDF va jusque dans les tombes. Il y a des branchements. L'électricité arrive dans les tombes. En parlant sérieusement, on peut être rempli de Christ, vivre dans les sépulcres. Nous sommes toujours la lumière de Christ. Mais elle est claire que la tombe, aussi étroite, petite qu'elle est, et on n'a aucun impact dans le monde. Et quand vous vivez dans un lieu opaque, concentré, où il n'y a pas le renouvellement de l'air, qu'est-ce qui se passe quand vous vivez dans un lieu où l'air n'est pas renouvelé? Il y a plein de bactéries qui se propagent, il y a plein de choses mauvaises qui se propagent, parce qu'il n'y a pas l'aération. D'ailleurs, on dit bien d'aérer les chambres pour tuer les acariens et compagnie. C'est le monde. Dieu, quand il a créé quelque chose, il le crée bien. Quand on reste compact dans nos vies, enfermé dans nos tombes, il y a plein d'allergies qui viennent, plein de choses qui viennent. Et on se dit être à l'abri, alors que je vais vous dire quelque chose. Je répète, ces allergies se trouvent dans les sépulcres et les tombeaux que nous nous sommes construits, croyant être à l'abri de ce monde. Mais c'est l'esprit de ce monde qui est entré dans ces tombes. Nous pensions être protégés, mais l'esprit du monde est rentré dans ces tombes, mais avec une subtilité, une séduction différente. Le mensonge nous étouffe par des pensées contraires. Il y a la paresse, la fatalité, le désespoir nous accable. Et c'est ce que je voyais en esprit, ce sont des noms inscrits à l'entrée des tombes. Je voyais des sépulcres, et à l'entrée, ce n'était pas marqué « Monsieur Baldassare Gabriel », c'était marqué, par exemple, incrédulité. Incrédulité. Et donc les gens venaient et disaient, on va visiter incrédule. On va visiter monsieur incrédulité. Parce qu'en fait, lorsqu'on se tient à l'écart de la vie, on ne peut pas la manifester. Et Paul a dit, je ne suis pas du monde, je suis dans le monde. Mais je refuse d'être influencé et impacté par le monde parce que c'est à moi de le faire. Et donc c'est pour ça que ce souffle nouveau aujourd'hui va nous régénérer et va en fait éliminer et mettre en lumière toutes ces allergies qui nous prennent, qui nous fatiguent, qui nous agacent. Parce que j'ai connu moi ça quand j'avais 18 ans, 16-18 ans, les allergies, le pollen. Et je me souviens toujours qu'à l'époque, j'étais à l'école, dans une école de... Bref, en seconde, à Marcel Samba, qui était à côté de Carrefour Vinicius à l'époque. Et moi, je prenais le bus, le 36. Et je le vois au loin, le 36 passer, le bus, et je dis, si je fais, je prends la route normale, je ne vais jamais y arriver. Mais entre l'arrêt du bus et moi, il y avait 150 mètres, un champ de colza. Qu'est-ce que je fais ? 150 mètres. Je prends le champ de colza. Je le traverse à fond. Je monte dans le bus. J'arrive à la maison, les yeux comme ça. 10 minutes après, allô, au docteur. Piqûre de cortisone dans la foulée. Une allergie. Et je vous garantis, pour ceux qui ont fait des crises d'asthme, de pollen, là c'est terrible. Et moi, alors ça peut en faire rire quelques-uns qui me connaissent, moi, je m'affole. Je tape tout le monde. Je m'affole, je deviens fou. Je deviens fou parce qu'il y a l'asphyxie. Eh bien, c'est un peu ça. Dans l'Église, ces allergies nous rendent dingues. En fait, stratégie de l'ennemi, occupe-toi de ton allergie, en attendant, tu ne t'occuperas pas des autres. Mais si on écoute la parole de Dieu et qu'on sort de ces sépulcres que nous nous sommes construits, alors le Saint-Esprit va souffler et régénérer nos poumons. Aujourd'hui, sans une puissante intervention d'un souffle nouveau, nous n'aurons pas la force et la révélation qu'il nous faut sortir de ces sépulcres. Eh oui, le problème, c'est ça. C'est que malgré qu'on sache la vérité, s'il n'y a pas de révélation, s'il n'y a pas de conviction, on ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi, on est bête. Il y a un souci. On a un souci. Il faut que le Saint-Esprit nous tombe dessus pour que l'on comprenne qu'on ne vit pas. Sachez que les morts ne dérangent personne. Les morts ne dérangent personne. Et tant qu'on restera dans nos sépulcres, on ne dérangera personne. Sauf que l'on arrive dans une situation aujourd'hui où le monde crie à sa façon, de mauvaise façon. Il crie, il s'exprime d'une mauvaise façon, mais il hurle. On sent le désespoir. Et Dieu entend. Et il entend. Maintenant, qu'est-ce qui attend les vivants en Jésus-Christ et les porteurs de vie ? Qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on sort de ces sépulcres et qu'on prenne conscience qu'on est vivant et que Dieu nous a donné un esprit nouveau et un cœur nouveau ? Maintenant, le Seigneur te demande, de faire une pause dans ton esprit, ton âme et ton cœur et que tu écoutes et que tu l'écoutes te parler. Une pause. Et ça, ça a fait tilt. Reviens au psaume 24. Maintenant, tu me mets 7 à 10. Parce que le psaume 24, il n'était pas fini. Le mieux est à venir. Mais avant que le verset 7 soit annoncé, avant ça, il était dit que David fait un Selah. C'est marqué Selah dans la parole de Dieu, qui veut dire pause. Quand vous lisez, quand je vous ai lu avec les mains innocentes, un cœur pur, aller sur la montagne de Dieu, la génération de Jacob, d'accord, la première partie, vous vous en souvenez ? Elle s'arrête avec une pause. Et vous allez comprendre pourquoi le prophétique a quelque chose à voir là-dedans. Il s'arrête. Tu penses que c'est possible de mettre l'ensemble ? Tu peux rajouter les trois, juste pour qu'on voie la pause. Voilà, regardez. Telle est la génération de ceux qui le cherchent. Tu me mets le verset 6, 7, 8, 9. Tu rajoutes 6, 7, 8, 9. Tu peux pas ? Bon, c'est pas grave. Écoutez, c'est pas grave. On va pas se casser la tête. Regardez bien comment il finit la première partie. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Pause. Mets-moi maintenant le reste. Reviens à 7. Vous avez vu ? Il s'est arrêté, il a fait une pause. C'est ça la pause de Dieu. Dieu nous demande, maintenant, fais une pause dans ton intelligence. Maintenant, fais une pause dans ta compréhension. Maintenant, fais une pause dans tes soucis. Fais une pause dans tes problèmes. Fais une pause dans tout ce que tu analyses. Fais une pause. Voilà ce que dit le Seigneur. Arrête-toi. écoute-moi. Porte, élevez vos têtes, élevez-vous. Voilà que David commence à prophétiser. Ce n'est plus lui qui parle. C'est Dieu qui parle, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas David, c'est pleinement une parole prophétique. Et vous regardez que d'habitude, on a l'habitude de dire « porte, élevez vos linteaux ». Mais la traduction exacte, c'est « porte, élevez vos têtes ». Nous sommes, et vous êtes, et je suis une porte. Donc, tant que la porte a un regard sur ses pieds, elle ne pourra jamais lever la tête. D'ailleurs, ça me fait penser à la vision que j'avais eue. Quand ça tournait dans les labyrinthes, le Seigneur disait « Il te suffit de lever la tête, car de là deviendra ton secours. Il te suffit de lever la tête. » Mais le souci, que quand vous êtes asphyxié, quand on est asphyxié, on n'a pas l'effort de lever la tête. On est recroquevillé, on est fatigué, on est coincé comme ça, on se serre, on se recroqueville. On n'a pas l'attitude et le réflexe de regarder à Christ. Non, 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 non. Et là, il dit, porte, élevez vos têtes, élevez-vous. Portail éternel. Mais quand j'ai entendu ça, quand le Seigneur m'a impacté, quand il a parlé à mon âme et à mon cœur, j'ai dit, mais c'est merveilleux, Seigneur. Tu me demandes simplement quelque chose qui est très simple. En fait, il me dit, crois, lève les yeux, regarde-moi. Crois, lève les yeux, regarde-moi. Là où je suis, ce chemin, tu vas l'emprunter. C'est tout. Il me dit, tu vas l'emprunter. Sauf que tu vas voir quelque chose de merveilleux, c'est que tu vas me rejoindre sans faire un millimètre. Bon. Je dis, Seigneur, c'est quoi cette histoire-là? Je vais te rejoindre sans faire un pas. C'est quoi le problème? C'est toi qui viens jusqu'à moi? Non, le Seigneur me dit, non, 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 tu viens jusqu'à moi. Mais je dis, je ne comprends pas, comment si je vais venir jusqu'à toi si je ne bouge pas? Et il me dit non, c'est toute une histoire de foi, une histoire de renouvellement d'intelligence. Si tu me regardes, tu vas croître. En fait, c'est une histoire de croissance et de maturité sur place. Comme Alain partageait la semence. On grandit. Et qu'est-ce que fait une plante? Elle cherche la lumière et elle va toujours plus haut, toujours plus haut. Et là, je disais, mais Seigneur, ça va jamais s'arrêter. Il me dit, oui, tu es une porte éternelle. Pourquoi tu veux que ça s'arrête? Pourquoi tu veux t'arrêter de grandir? C'est pour l'éternité que je t'ai appelé à être une porte. Regardez bien. Porte, élevez vos têtes. Levez vos têtes. D'où vous viendra le secours? Et là, il dit, élevez-vous, portail éternel. Et c'est ça qui est merveilleux. Et le roi de gloire entrera. La dimension prophétique de la puissance de la parole de Dieu. Et le roi de gloire entrera. En fait, tant que moi, je serai un plant chétif qui refuse d'être arrosé, fertilisé par la parole de Dieu, qui refuse d'être travaillé parce que le sol a besoin d'être labouré, vous connaissez tout ce système du travail, du caractère. Tant que ton caractère ne sera pas travaillé, tant que tu ne me feras pas confiance, tant que tes regards ne cesseront pas, ne seront pas portés sur moi, tu regarderas toujours la terre d'où tu as été tiré et d'où tu retourneras. C'est symbolique ça. C'est symbolique de ce qu'attendait Adam. Nous ne sommes plus des Adam. Nous sommes en Christ. Et tant que je regarderai la terre, eh bien, je sais que j'ai été tiré de la terre, que je vais retourner à la terre sans espoir. D'ailleurs, les tombes représentent les maisons de la terre, de l'oubli. Les tombes, c'est l'oubli. Et on peut être vivant en étant oublié. Et donc, si mes yeux et ma tête se relèvent à la splendeur de la gloire de Dieu, Dieu prend plaisir en disant, voilà, la foi se manifeste dans l'obéissance Et il y a une force nouvelle qui agit parce que le souffle commence à souffler en nous. Ça souffle en nous. On reprend vie, on respire, on commence à remplir et ça commence à générer quelque chose de nouveau. Et ça se développe en nous et on commence à grandir et à se rapprocher toujours plus de Dieu tout en étant les pieds sur terre. Et là, ces fonctions entre le ciel et la terre, nous faisons accès, porte entre le ciel et la terre, entre le ciel et la terre. Et il y a quelque chose de puissant et de merveilleux qui naît, parce que Dieu dit « Je te vois comme une porte éternelle dans laquelle je vais passer. » Sauf que je suis grand, tu es trop petit. Je veux que tu grandisses dans ton espérance, grandisses dans ta foi, que tu grandisses dans ta sainteté, que tu grandisses en toutes choses et que tu t'oublies. Alors là aussi, on revient à l'oubli. Voilà ce que le Seigneur me disait. « Je veux que tu grandisses en moi et que tu t'oublies. » Que tu t'oublies, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est terrible d'entendre Saint-Esprit te dire, Gabi, oublie-toi un peu. Oublie-toi. Arrête de penser à toi. Mais bon. Le désir de notre Seigneur, c'est de faire de ses enfants des accès à la vie pour ce monde. Le monde nous voit comme des portes d'accès. Le Seigneur nous voit comme des portes d'accès, afin que nous soyons des instruments pour sa gloire. Et ce désir s'est manifesté prophétiquement quand David a proclamé une vérité de Dieu. Qui est ce roi de gloire? Vous avez vu, Dieu se parle à lui-même puisqu'il prophétise, hein, d'accord? C'est pas David hein, qui dit au fait, c'est qui ce roi? Lisez bien la parole. C'est pas David qui dit qui est ce roi. Dieu parle à lui-même. Et il dit, qui est ce roi de gloire? Point d'interrogation. L'Éternel fort et puissant. À partir de là, le reste est dit. L'Éternel fort et puissant dans la bataille. Dans la bataille. Porte, élevez vos têtes. Élevez-vous, portail éternel, et le roi de gloire entrera. Oh là là, moi j'imagine un peu ça là. Oh là là, le roi de gloire, fidèle et véritable, chevauchant le cheval blanc, puissance, les anges derrière qui nous accompagnent, qui nous servent et qui combattent pour nous. Moi, une simple porte qui commence à grandir pour laisser rentrer ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais nous définissons mal Jésus dans sa splendeur. Nous le définissons mal parce que nous sommes limités dans notre vocabulaire. Heureusement qu'il y a le parler en langue. Hein. Oh là, au moins, je sais que derrière, ça éclate. Après, Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce et ça tourne. Mais là, pff, ça part. Qui est ce roi de gloire? Une question de notre Seigneur. Qui est ce roi de gloire? Qui est-il pour nous? Vous allez voir, quand vous allez commencer à donner les attributs à Dieu et à ce qu'il est, vous allez voir comment les problèmes vont fondre comme neige au soleil. Ah tiens, mon identité en Christ. Je suis à Christ. Il est le Dieu fort et puissant dans les combats. Il me suffit de rester derrière lui. Je reste derrière lui. Et pourquoi, il a parlé de Dieu, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez-le. Silence. Voilà. Et je vais finir. Encore une parole que le Seigneur me disait, si vous n'élevez pas votre connaissance, si vous n'élevez pas votre connaissance, votre louange, votre adoration, votre consécration, et si tu n'élargis pas l'espace de ta tente, cette porte qui est ta foi et ton espérance ne permettront pas pleinement, je dis bien, au Saint-Esprit de s'exprimer au travers de nous. Dieu veut se glorifier au travers de toi si tu lui permets. Nous sommes une porte entre le ciel et la terre. Et je finis par Jean 17, 22, 24. Pour ceux qui douteraient que Dieu les voit de telle manière, Jean 17, 22, 24. Et la gloire que tu m'as donnée, c'est Jésus qui parle, moi, je la leur ai donnée. Alors, si des fois il y en a un qui dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ta gloire, Seigneur ? Jésus va dire, rien, tu l'as. Mais par contre, utilise-la. Ou laisse-moi me glorifier à travers toi. On demande, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donne-moi ta gloire. Encore une fois, le Seigneur dit, eh ben, tu l'as. Vas-y, par la foi, laisse-moi m'exprimer à travers toi. Moi, je leur ai donné afin qu'ils soient un. Comme nous, nous sommes un. Moi en eux, ah ouais, Jésus en nous, et toi, papa, en moi. Afin qu'ils soient consommés en un. J'aime bien aimer cette parole. Consommés. Consommés. Nous sommes le corps de Christ. Hein. Ça fait partie de la consommation. Dieu nous a consommés. Il nous a mangé, comme nous, on le mange, puisqu'on ne fait qu'un. Ce sera un autre débat. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette gloire manifestée en Jésus-Christ a besoin de nous. Tout simplement. Car je vous le dis, que si Dieu n'avait pas besoin de nous, à la croix, il aurait envoyé 24 000 anges, il aurait réglé le compte à Satan. Mais si l'Église existe aujourd'hui, si elle est née à la Pentecôte, c'est pas parce que Dieu avait voulu faire un club, une association, en disant « je suis à la retraite, je ne sais pas quoi faire ». Je vais créer une association de gens qui croient en moi. Hein ? Non. Dieu dit, je suis mort, ressuscité, j'ai vaincu la mort, maintenant je vais détruire jour après jour toutes les œuvres du diable afin que naissent tous ceux que j'appelle à la vie. Et de ça, il dit, j'ai besoin de ce peuple. Ah, première chose, et ça sera donc le samedi, si vous prenez conscience, et si vous êtes convaincu, malheureusement, que nous sommes encore liés, que d'autres encore ont pris l'habitude de décorer leur tombe et de vivre dans une tombe, et qu'il faut en sortir afin de retrouver un souffle nouveau. L'Église, je vous le dis, a besoin d'un souffle nouveau. Et la prophétie, le prophétique, c'est pas ce que l'on croit. Là aussi, on fait un amalgame avec le prophétique. Le prophétique, c'est simplement vivre la parole de Dieu par l'Esprit. Et non par notre intelligence. Et quand Dieu se manifeste, il parle à travers nous, et que la parole Réma sort de notre bouche, elle fait un impact puissant et merveilleux. Et sans rien dire même, sans dire quelque chose, on transpire tellement la grâce de Dieu que ça balaye toutes les pensées contraires. Et toutes les hauteurs et les murailles qui se dressent contre la parole de Dieu, contre la connaissance, s'écroulent. C'est là ce souffle nouveau. Parce que, je vous le dis encore, si cette nation de France crie au désespoir à travers des manifestations ou autres, c'est parce qu'ils n'ont rien, aucune possibilité sur laquelle se raccrocher. Donc ils se raccrochent à des mensonges que l'on a dit depuis longtemps. Mais je les comprends. Moi, j'étais comme eux. Je me raccrochais à des mensonges. Quand la lumière de Dieu est venue par la parole de Dieu qui m'a révélé la vérité, alors j'ai compris. Maintenant, ces vérités, je vous le dis encore, sans le Saint-Esprit, ne deviendront jamais une réalité. Et moi, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Je me suis repenti, Saint-Esprit, parce que je t'ai laissé à part et j'ai voulu être le gestionnaire de ma vie. Or, le gestionnaire de ma vie, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la grâce de Dieu en moi, qui manifeste l'amour de Jésus-Christ. Et c'est par le Saint-Esprit que je peux accomplir la volonté de Dieu et que je veux voir cette Église remplie, 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 remplie d'âmes vivantes. Pas simplement de gens, mais d'âmes vivantes qui viennent louer et adorer et on ne saura plus où donner la tête. Et voilà, et normalement, tout de suite derrière, les disciples se feront. Qu'est-ce qu'un disciple ? C'est simplement quelqu'un qui suit Jésus. Tout simplement, appelons un chat, et nous devons retrouver les valeurs de Christ en nous et la parole vivante qui est en nous et la voir se manifester comme elle s'est manifestée à l'Église primitive. Pourquoi ? Simplement, ça a été l'Église du premier temps qui s'est manifestée et aujourd'hui, nous, on mange quoi ? Les miettes ? Moi, je ne suis pas la femme syrophénicienne qui fait tomber les miettes. Non. Moi, je suis à la table du roi. Dieu a dressé une table face à mes adversaires et il y a plein de nourriture. Et elles sont pour moi les mets succulents. Et moi, dans les tombes, je ne mange rien. Ce sont les vers qui vont me manger. Que dalle ! Je leur donnerai rien. Moi, je suis une porte éternelle, un portail pour l'éternité. Je veux être un accès à ceux qui recherchent Christ, afin que Dieu entre par moi et aille chercher. N'oubliez pas, le Christ entre par nous et c'est le Christ qui va chercher ces âmes perdues. Sauf que la dimension de ma porte, c'est un soupirail. Encore une fois, les soupirails, c'est pour donner un peu de lumière aux caves. Et ça a encore référence aux tombes. Alors que je vais être la porte d'entrée. La porte d'entrée. La porte d'entrée. Amen. Eh bien, j'espère que samedi 6, Seigneur, tu puisses répondre après puissamment par les actes. Et que nous puissions prendre conscience réellement, Saint-Esprit, que tu gères toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis de l'amour de Christ.